commentaires. Les banquiers étaient en train de détruire le monde et lui divaguait sur le cœur exubérant de l'économie, sur l'embrasement qui en anime les procédures. Il avait pourtant bien vu dans la souterraine comment se comportent les capitalistes. Mais son idée, certes encore imprécise, retournait complètement le jeu sinistre des banques. Dans son enthousiasme, il allait jusqu'à penser qu'on n'avait pas encore envisagé l'économie à la mesure de l'univers. Notre monde faisait erreur. L'argent n'était pas qu'une matière d'échange, ni même la source illimitée de profit en laquelle les riches le dévoient, mais une forme d'énergie qui appelait la dilapidation. Yannick Haenel est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son dernier livre intitulé « Le trésorier payeur ». Et comme chaque soir, nous commençons en musique et ce sera Étienne Dao.
Je me tourne, ça ne suffit pas à me faire oublier que t'es plus.
Peut-on rompre avec soi-même, Yannick Hennen ? Est-ce possible ?
Ah, parfois, je me dis qu'on ne fait que ça. Ouais. À la fin, ça m'énerve quand on dit « restez vous-même ». Je pense qu'être soi-même, c'est une telle quête, c'est une telle, ça suppose une telle initiation, ça demande tellement de temps que finalement, cette initiation, elle passe par beaucoup de ruptures avec soi-même. J'aime bien l'idée de contradiction et... Il n'y a pas de raison qu'on soit plus en contradiction avec le monde qu'avec soi-même. Enfin, moi, je suis pas toujours d'accord avec moi-même. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai imaginé ce personnage qui passe d'un absolu à un autre, au fond. Qui est dans une valse des absolus. Et je crois pas qu'il y ait dans la contradiction quelque chose qui relèverait du reniement. Mais il y a une exigence à être disponible à ce qui peut venir vous bousculer, à chaque instant. Je crois qu'un poète, parce que mon bizarre banquier là dont on va parler, c'est un poète. C'est quelqu'un qui ne se fiche pas, disons, sur une position. C'est quelqu'un qui cherche à recevoir à chaque instant les intensités du monde, et ces intensités peuvent être contradictoires.
Il vit dans l'absolu, en tout cas dans le désir de l'absolu, et ces absolus qu'il essaye d'embrasser ne lui suffisent pas, donc il va vers d'autres mondes, et finalement il ne fait jamais coïncidence avec lui-même.
Ça suffit jamais au fond. Je sais pas très bien quand est-ce qu'on est dans l'absolu, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'achève, mais en tous les cas c'est un point irréductible qui se nourrit de tout ce qui vient le frapper, ce point, enfin le frapper au sens émotif. Oui, ce jeune homme, c'est un philosophe au départ. Et en fait, la philosophie lui suffit pas. Ça pourrait suffire. En un sens, ça suffit à ma vie. La philosophie, la littérature, la poésie. Mais il y a un principe d'insatisfaction et de désir de dépenser plus, de se dépenser plus et d'aller peut-être vers des lieux plus dangereux, en l'occurrence l'économie dans sa vie.
Il a appris René Descartes. Il sait que la séparation entre l'âme et le corps existe, et pourtant, lui, il n'y croit pas, parce qu'il ne le vit pas, il ne la vit pas, cette séparation.
Exactement, je crois que précisément la séparation, enfin comment dire, la coïncidence entre l'âme et le corps, ce serait ça l'absolu, enfin le fait que ça ne se sépare jamais en fait. Ces moments-là, comment les atteindre? Ce roman, c'est aussi une espèce de protocole d'activité, d'emploi du temps, et lui, il trouve ça dans les étreintes amoureuses, au fond. C'est là où il va se dépenser. Là où on croit que la dépense est monétaire, a fortiori quand on évolue à la Banque de France, comme ce jeune homme, on découvre que peut-être le seul endroit où il n'y a plus de contradictions, ou en tous les cas, le court-circuit produit quelque chose de neuf, alors c'est peut-être ça, c'est dans le baiser, le fait de s'embrasser. Tout ce livre, en fait, vient d'une scène que j'ai écrite, qui est contenue dans le livre, qui est celle d'un baiser, voilà. Le banquier de la succursale de la Banque de France de Béthune, qui, après avoir fermé la banque à 17h, traverse la ville de Béthune et va embrasser sa femme, qui est la dentiste de Béthune. Ça m'a suffi, au fond, j'ai rêvé sur ce baiser et sur ce qui se passait à l'instant d'un baiser qui pouvait être à la fois l'instant d'une vie et l'instant d'un roman, enfin, je dirais 50 années d'une vie, voilà, à l'intérieur d'un baiser qui ne cesse de s'approfondir.
Béthune, baiser, ces deux mots ont agi comme des espèces de signal chimique, comme souvent dans ce que vous écrivez, Yannick Hennen.
Oui, c'est vrai qu'il y a de l'alchimie, vous avez raison, mais c'est l'alchimie du signifiant. Alors j'ai quand même mis au moins 2 ou 3 ans à me rendre compte que dans Béthune, il y avait le mot thune. Là, je dois dire que pour un livre sur le capitalisme, pour un livre qui se passe dans la Banque de France, quand bien même on vide les coffres de cette Banque de France et on fait sauter la banque en quelque sorte, de manière poétique, il s'agit quand même de thunes, voilà. Tout ça s'est passé à Béthune, tout ça a eu lieu à Béthune, et j'ai continué à m'en occuper, oui.
Mais il n'y a pas que le seul moment du baiser et de l'étreinte amoureuse, car il y a des scènes un peu hard à l'intérieur de votre nouveau roman, Le Trésorier Payeur, en tout cas des scènes très sexy et érotico-maniaques, car ce trésorier payeur aime bien faire l'amour, pas dans une chambre, tranquillement, mais il aime beaucoup faire l'amour la nuit, à l'arrière des voitures. Et vous savez très bien décrire cette excitation de pouvoir éventuellement être vu et de continuer l'étreinte. Mais il y a aussi un autre moment où le ravissement hors de soi peut peut-être s'opérer, et il est omniprésent à l'intérieur de votre nouveau livre, Yannick Haenel, c'est l'ivresse.
Ben ça va avec l'étreinte.
Ah oui, oh ben moi. Non, on peut faire l'amour sans être complètement beurré.
Non, c'est pas ce que je veux dire. c'est mieux sans avoir trop bu. Non, je veux dire par là que ce sont des. On parlait d'absolu, c'est encore un autre absolu, enfin qui a parfois la même intensité. L'ivresse d'aimer, voilà. Je crois que ce personnage là du trésorier payeur, tout ce qui peut le sortir du format et surtout de la raison semble bienvenu. Il a une espèce d'endurance et d'attirance aussi pour ces régions flottantes, ardentes aussi, parce qu'il y a le feu dans l'ivresse. Et je pense que c'est quelqu'un qui, et je m'en sens assez proche, qui déteste ce moment après l'extase, quelle qu'elle soit, hein, où il y a la retombée. Comment faire que l'extase soit sans retomber? Alors, soit faut être très très allumé, enfin même illuminé, comme un saint au fond. Au fond, peut-être que ce personnage de banquier, c'est un saint à l'époque de la mort de Dieu, je sais pas, à l'époque du capitalisme intégré. Ou alors, on en prend son parti et on vit justement cette contradiction maniaco-dépressive. Enfin, ça. Un absolu en bas, un absolu en haut, enfin, la journée de travail morfondante en costume cravate à la banque, comme absolu, pas du tout médiocre d'ailleurs, comme absolu dans les chiffres, et au moment où on sort de la banque à 17h, un nouveau monde s'ouvre où, comme j'essaye de le décrire, cette récitation effrénée des chiffres s'arrête dans sa tête à partir du moment où il embrasse une femme.
Et quand il n'embrasse pas, il boit des bières, puis ensuite du vin,
il fait
jusqu'à
ce qu'il peut,
oui. Plus soif. Oui. Et vous décrivez à plusieurs moments, mais ce n'est pas la première fois dans votre littérature, Yannick Haenel, ce moment précis que nous connaissons presque tous, où tout d'un coup, alors on en revient à René Descartes, l'âme s'éloigne du corps, ou le corps va atteindre l'âme, en tout cas quelque chose de l'absence de réalité la plus lourde s'éloigne, et où on a l'impression qu'on est plus fort que soi-même.
Là, il y a une forme de souveraineté, on la connaît tous, et je n'ai pas envie de me dire qu'elle est illusoire, parce que au fur et à mesure du temps, enfin voilà, là, plus de 50 ans, je me dis que cette manière de sortir de soi est de plus en plus proche de ce qu'est l'existence elle-même. Je me dis souvent qu'on, à la manière de Pascal, alors c'est pas seulement Descartes, c'est Pascal. Je me dis souvent qu'en fait on vit pas. En fait, on est toujours un peu otage de quelque chose qui nous empêche de vivre.
Exactement le thème de ce nouveau livre.
Mais je crois que
on vit pas, mais on s'en rend pas compte.
Voilà. Et les accès à l'existence, parce qu'on y accède par moments. Si on parvient à les élargir, alors ils sont dans l'amour, dans l'ivresse, aussi dans la charité, y a quelque chose qui nous électrise, voilà, quelque chose d'ardent qui fait que cette vie se d'un coup se donne comme complètement entière en fait. Le chiffrage effréné dans lequel on est séquestré, le calcul au fond, le calcul même de nos vies, enfin comment on se réfrène, comment on s'épargne, d'un coup tout saute, les digues qu'on se met soi-même et que la société nous met s'effondre. Et c'est, voilà, j'ai jeté ce trésorier payeur en l'habillant en presque en fonctionnaire d'État, enfin. Je l'ai jeté dans un monde tumultueux, assez fou, qu'il découvre. Et c'est une espèce de Rimbaud chez les capitalistes, qui se cache. Vous citiez Descartes, la devise de Descartes, c'est quand même l'arvatus prodeo, je m'avance masqué. Cet homme n'a l'air de rien, à Béthune, et pourtant c'est une espèce de fou furieux, d'illuminé, très tranquille, très calme.
C'est un livre magistral sur la dépense, la gratuité, le rien, le apparemment rien qui est le plus important, puisque petit à petit, sans mettre à mal le plaisir des lectrices et des lecteurs quand ils liront votre ouvrage, Yannick Haenel, il s'aperçoit que quand on ne fait rien, on est peut-être justement là, au plus proche de soi-même. Et quand se faire rien n'est justifié par rien. Et vous avez dit charité, moi je dirais bienveillance, puisque ce trésorier payeur va terminer, enfin, une partie de sa vie va se clôturer sur finalement une existence de clochard où son temps il va le passer à accueillir des plus déshérités que lui qui n'ont même pas à décliner d'où ils viennent, combien de temps ils vont rester dans sa maison, pourquoi ils sont là.
Oui, ça me plaisait bien, on parlait de contradiction, ça me plaisait bien d'aller dans le paradoxe apparent, c'est un banquier qui voudrait tout dépenser, un banquier anarchiste également, et un banquier qui donne de l'argent, finalement.
Et qui ne sait pas de combien il dispose.
Ben oui, parce qu'au fond, la charité, puisqu'il va devenir charitable, il va s'initier dans cette confrérie qui existe réellement, que j'ai découverte à Béthune, la confrérie des charitables. Il y a beaucoup de confréries laïques dans le nord de la France, parce que ce sont des lieux qui, finalement, après la fermeture des mines, avec la misère qui s'est installée, ont sauvé beaucoup de gens du Front National, tout simplement. C'est finalement les confréries des charitables, c'est arrivé à la place du Parti communiste, voilà. Et donc il devient charitable, et comme vous le savez, la charité, si elle existe, elle est inconditionnelle, elle est sans réticence. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas à qui on donne, on ne se demande pas combien, on ne se demande même pas si on a pour donner, mais on donne. Cet homme, voilà, va découvrir...
Comme l'hospitalité.
Et comme peut-être la liberté, si ça existait encore, c'est-à-dire la liberté, ça se mesure pas, en fait. Ça se remet pas au lendemain, enfin. Soit on est libre, soit on ne l'est pas. Et la charité, c'est un amour fou, en fait, quand on y pense, quand on la pratique. Et je pense que quand on la pratique vraiment, on ne sait même pas qu'on la pratique. Il y a une attention à autrui qui se met à prendre toute la place et qui se met même à prendre votre place. Et donc, cet homme, qui a une maison merveilleuse, qui est un peu à l'origine de ce livre, une maison que j'ai découverte à Béthune, juste à côté de la banque. Et on m'avait même dit, quand j'y étais allé, que le trésorier payeur de la Banque de France y avait creusé un tunnel qui faisait se rejoindre donc son intimité, enfin sa maison, et la salle des coffres. Moi, je m'étais demandé ce qui avait bien pu passer par la tête de ce type, enfin pour creuser un tunnel, le propre trésorier, enfin le caissier, comme on disait à l'époque, de la banque, creusant un tunnel. C'était évidemment pas un tunnel d'évasion ni de cambriolage, mais un tunnel de quoi ? D'obsession. En fait, je suis entré mentalement dans ce tunnel par la fiction. En racontant cette histoire qui, au tout départ, est vraie, comme on dit, mais j'en sais pas plus sur lui, j'ai pas voulu savoir plus. Il y avait que ce tunnel, et il y avait juste à côté, il y avait un Emmaüs, le plus grand de France, et la confrérie des charitables. Et là, je me suis dit, c'est incroyable, la Banque de France, le tunnel, Emmaüs, les charitables. J'ai vu un roman, comme dit Balzac, et je m'y suis engouffré de manière féerique, enfin, pendant 5 ans, je dois dire, à inventer des personnages, à raconter aussi ce qui nous arrive depuis les années 80, c'est-à-dire le néolibéralisme, enfin, la manière dont il a peu à peu empoigné nos vies. Depuis Reagan et Thatcher jusqu'à la crise des subprimes, c'est une espèce de panorama comme ça sur 30 ans de la vie de cet homme étrange.
Je crois que je ne porte pas atteinte au plaisir des lectrices et des lecteurs si je dis que ce livre a commencé par une invitation qui vous a été formulée en tant qu'amoureux de la peinture, auteur de plusieurs livres sur cet amour de la peinture, et notamment un très beau Caravage. On vous a invité à venir au Centre d'art de Béthune pour venir faire une exposition. À partir de là, les faits se sont enchaînés, votre imagination a commencé à fonctionner, mais il y a aussi autre chose à l'intérieur de ce livre. Il y a le fait que ces découvertes, comme la confrérie des charitables, vous a introduit dans le monde de la mort. Car cette confrérie des charitables, elle a aussi pour mission d'enterrer le mieux possible tout le monde à égalité, y compris ceux qui n'ont pas d'argent et les familles de ceux qui viennent mourir qui n'ont pas d'argent. Et je me suis dit, mais Yannick Enel, il revisite encore une fois la mort. Donc qu'est-ce qui appartient à la fiction? Qu'est-ce qui appartient à la réalité? Je n'en sais rien, j'en ressens aujourd'hui à la fin de la lecture de votre livre une sorte de tangage et d'océan d'incertitude.
Bah écoutez, moi aussi, je vogue sur cette incertitude, je crois comme tout le monde. Effectivement, le livre s'ouvre peu à peu à mesure que ce personnage du trésorier payeur dépense sa vie. Ce roman s'ouvre à à l'initiation elle-même, c'est-à-dire le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Il y a un personnage très important, il y a des protecteurs en fait qui sont là, des personnages transitoires, personnages masculins qui veulent du bien au fond au trésorier payeur, parce qu'il y a pas, on n'a pas que des ennemis dans la vie. Moi j'ai décrit un monde où finalement des gens ouvrent les portes. Il y a plusieurs femmes que cet homme va aimer, mais il y a également des hommes qui l'aident. Et lui va aider effectivement des surendettés. Peut-être que l'une des grandes nouvelles, effectivement, que la confrérie des charitables va lui transmettre, c'est d'envisager la mort non pas comme un malheur terminal, mais comme une présence. J'allais dire, il y a un livre de Blanchot, c'est celui qui ne m'accompagnait pas. Alors je dirais, voilà, la mort, c'est celle qui nous accompagne, qui est là comme un compagnon secret, comme dirait Conrad. La mort d'un de ses amis, Charles de Rennes, introduit lui aussi, infiltré dans la banque, cette mort va lui donner quelque chose. Et non seulement va lui donner quelque chose, mais va lui permettre de rencontrer une femme. En fait, l'étrange particularité de la mort, peut-être, quand on la rencontre et qu'on n'en meurt pas, c'est de vous octroyer de la vie en plus. Et effectivement, ce livre, et j'y pense parce que vous m'en parlez là, à un moment, il est scindé et quelque chose advient de l'amour fou, qui n'avait peut-être pas été possible avant. Parce que peut-être, il faut traverser cet océan d'incertitude dont vous parliez tout à l'heure. Et le livre qu'au départ, j'avais vu comme quelque chose dans ma tête, hein, comme une sorte d'objet théorique, comme une relecture fantaisiste de La part maudite de Georges Bataille, de livre d'économie un peu hétérodoxe. Ce livre, peu à peu, en l'écrivant, est devenu un véritable roman et s'est embarqué vers l'amour fou, en fait. C'est une histoire d'amour fou, parce que je crois que dans l'amour où on ne compte rien, où on largue les amarres, en fait, se réalise la plus belle des dépenses. Et ce type-là, ce banquier illuminé, va se rendre compte que la véritable richesse n'est évidemment pas dans le profit, il n'est pas tellement du côté du profit, elle n'est même pas dans l'argent, mais peut-être dans le fait d'aimer physiquement. La richesse est sexuelle, voilà. Les taoïstes l'ont dit avant nous, mais la richesse est sexuelle, parce que à mesure qu'elle s'accomplit, elle se dépense et elle se réaccomplit.
Au début de ce livre, il y a l'ombre portée de Georges Bataille. Vous venez de citer son nom et effectivement, les 30 premières pages apparaissent comme une dissertation demeurant très agile et très brillante sur la postérité de Georges Bataille. Et puis ensuite, en tant qu'écrivain facétieux, Yannick Hennel, vous nous emmenez dans d'autres paysages, vers d'autres visages et vers d'autres histoires. Mais le nom de Bataille va perdurer tout au long de ce roman qui a des allures de polar. Je voudrais vous faire écouter la voix de Georges Bataille. C'est une archive INA du 21 mai 1958.
Je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature. Je crois que c'est un très grand et très grave danger, mais que l'on est vraiment homme qu'en affrontant ce danger. Et je crois que c'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier. Parce que la littérature ne nous laisse pas vivre sans apercevoir les choses humaines dans leur perspective la plus violente. Que l'on songe à la tragédie, à Shakespeare, et il y a de multitudes d'aspects du même genre. C'est tout de même la littérature qui nous permet de voir le pire et de savoir lui faire face, de savoir le surmonter. Et somme toute, cet homme qui joue trouve dans le jeu la force de surmonter ce que le jeu entraîne d'horreur.
On vient d'entendre la voix de Georges Bataille et il vient de parler de la puissance du jeu. Et à l'intérieur de votre nouveau livre, Yannick Hennel, le trésorier payeur, donc il y a une commande qui vous est adressée, que vous allez exaucer. Et puis petit à petit, vous allez vous apercevoir que Bataille, c'est le nom du trésorier payeur, mais c'est le vrai nom. Donc comment intuition, comment nommer des gens qui portent le même nom qu'un écrivain que nous admirons tous, comment tout ça forme une sorte de complot pour ourdir une histoire qui se tienne.
C'est aussi ça, effectivement, le sujet de ce livre, c'est comment ça nous arrive, comment ça vient, en fait.
Donc tout ça est vrai.
Ah oui, oui, tout est vrai, oui. J'ai été effectivement invité à Béthune par Léa Bismuth pour écrire une partie du catalogue d'une exposition consacrée à l'idée de dépense dans une ancienne Banque de France. Ça me plaisait déjà.
À partir de Georges Bataille.
À partir de Georges Bataille, puisqu'on avait demandé à des artistes d'illustrer, si je puis dire, avec des œuvres, les théories très étranges de Bataille, de la part maudite, à savoir que le cœur de l'économie ne serait pas du côté de l'épargne, mais de la dépense. Bon, ça me plaisait.
Mais ça ne m'étonne pas.
Voilà, bon.
Ça vous correspondait bien.
C'était déjà pas mal. Mais en arrivant là-bas, j'ai trouvé mieux. À savoir que quand on m'a dit que cette maison qui me fascinait en briques rouges, qui semblait être la maison du docteur Edwards, vous voyez, une maison très hitchcockienne, contenant quelque chose qui déjà m'attirait, quand on m'a dit que cette maison appartenait au trésorier payeur, qu'elle était juste à
de Béthune,
juste à 1 mètre de la Banque de France, sans aucune séparation, et qu'il y avait un tunnel que j'ai vu, que j'ai photographié, qui est maintenant muré. J'ai pensé que le petit catalogue avec un énième texte sur Georges Bataille, c'était pas suffisant. Et donc, j'ai pris soin de raconter ça au début du livre, pour qu'on entre tous dans le tunnel, et qu'on entre dans cette fiction, parce que seule la fiction fait face à ce que, je reprends ce que disait Bataille tout à l'heure, c'est tellement beau d'entendre sa voix, fait face au danger. J'aime bien quand il dit que la littérature c'est le lieu du danger, parce qu'on a tendance à croire le contraire, on pense que c'est un refuge, enfin un petit supplément d'âme. Au fond, c'est comme le trésorier payeur dans sa vie cherche les endroits, les régions les plus intranquilles où l'intensité va prendre sa place. Moi, je trouve que la littérature, c'est un lieu où se déploient les choses que la société refoule, les choses oubliées. On parlait de la mort tout à l'heure, bien sûr, mais aussi la féerie. Je trouve que un roman, c'est un territoire. J'ai relu tout Proust pour pas spécialement pour écrire ce livre, mais il se trouve que ça a coïncidé. Et cet enchantement qui est à la fois noir, abyssal, et en même temps mauve, comme la couleur des guermantes, enfin, comme un jardin. Je sais pas, ça m'a redonné une foi illimitée dans les pouvoirs de la fiction, dans les pouvoirs du questionnement romanesque. Voilà, je me suis attaqué carrément à ce sujet un peu fou qui est de parler d'économie dans un roman. Je sais que l'économie, a priori, c'est pas très sexy. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose de l'ordre d'une aventure existentielle. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces questions autour de nous, chaque jour, l'argent, se dépenser, s'économiser, tomber amoureux ou pas, faire attention ou pas du tout faire attention, y aller à fond. Pour moi, ce sont des questions politiques, ce sont des questions éthiques, comme la charité aussi, l'érotisme, enfin, la vraie grande politique pour moi, si elle devait avoir lieu, elle doit avoir lieu. Elle est dans cette question de savoir si on regarde vraiment les autres. Est-ce qu'on regarde vraiment les autres ?
Ben, votre narrateur, il regarde vraiment les autres. Ce trésorier payeur, quand il a décidé d'abandonner son statut ou de croire à son statut de trésorier payeur et qu'il a décidé d'ouvrir sa maison à toutes les personnes qui auraient besoin de son refuge, oui. Eh bien, il les regarde, il les écoute, il passe énormément de temps avec eux, il ne se contente pas de les protéger. Et vous, en tant qu'écrivain, Yannick Hennel, tous ces inconnus qui viennent peupler cette maison, vous les décrivez aussi. Et là aussi, c'est une question, est-ce de la fiction? Est-ce une enquête que vous avez menée? Parce que vous décrivez des itinéraires d'êtres fragiles, brisés par ce capitalisme des années 80, que vous stigmatisez avec violence dans cet ouvrage.
Mais c'est vrai qu'il y a toute une part de réflexion sur l'époque, voilà, tout simplement. Et puis, je vous disais tout à l'heure que j'ai donné à cet homme, je lui ai donné mon âge, parce que c'était plus facile pour transposer, vous voyez. Et donc, effectivement, ces 30-40 dernières années, ça a quand même été, qu'on le veuille ou non, l'emprise du néolibéralisme sur toute la planète. Enfin, de sorte qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver un lieu qui ne soit pas entièrement mangé par l'économie, et l'économie devenant folle, dans la finance folle, comme on dit. Et tout le livre porte là-dessus, sur la part irréductible, parce que je crois qu'il y a une part irréductible en chacun. Je crois qu'il y a des lieux intérieurs, en fait, où le capitalisme n'a pas prise. Je ne sais pas si on peut sortir du capitalisme, mais en tous les cas, il y a des lieux où il n'arrivera jamais à nous prendre. Je voulais justement qu'il y ait un jardin dans ce livre, un jardin dans cette maison qui est presque le cantique des cantiques, enfin un jardin inouï, enfin celui où j'aimerais vivre, enfin où j'ai mêlé des petits morceaux de jardin où j'ai passé des instants dans ma vie, en Afrique, en Bretagne, en Alsace, partout, avec mes parents, ou seul, ou avec quelqu'un. Et j'en ai fait un immense jardin qui devient la littérature elle-même, où effectivement il va recueillir des déshérités, mais où va se jouer quelque chose comme un nouveau rapport avec le temps, quelque chose d'indemne. J'aime bien le mot indemne, parce que dans le mot indemne, étymologiquement, ça veut dire non damné, ce qui échappe à la damnation, ce qui n'est pas infernal. Il y a quand même, on le ressent tous, l'idée qu'on vit, pas en enfer, mais qu'il y a une infernalité qui est là, qui pourrait nous bouffer, tout simplement. Et là, justement, l'attitude, la rigueur et en même temps l'emportement fou du trésorier payeur, c'est sans cesse de sortir de cet enfer. Et ce jardin va se substituer peu à peu, je crois, à la salle des coffres. Ce jardin va peut-être l'emporter sur la banque, voilà. Peut-être qu'on vit pas entièrement dans une banque. Et quand on est banquier, c'est une révélation quand même assez dingue. Mais qu'il y a ce jardin qui pousse, où il suffirait à chacun de se débrouiller, d'ouvrir la porte pour y accéder. Et donc là, j'ai pris un plaisir fou, je dois dire, il y a des pages comme ça, un peu, peut-être en roue libre de poésie, d'auto-poésie, où quelque chose se joue d'un peu nabokovien, je veux dire. J'ai pris soin, j'aime bien le mot soin, enfin, comme on soigne un jardin, enfin, j'ai pris soin de mettre en exergue de ce livre la phrase ahurissante de Nabokov, dans Ada, qui dit « Je veux caresser le temps ». Voilà, ben moi aussi je voudrais caresser le temps, et c'est une chose que je pense qu'on y parvient par moment, enfin voilà, dans les trains, dans l'amour et dans la littérature.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Yannick Hennel, Glenn Gould, Variation Goldberg, numéro 4.
Si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela ? De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes faux, mais faux alliés.
Nous venons d'entendre donc les variations Goldberg interprétées par Glenn Gould, la variation numéro 4, puis tout de suite après, un extrait de la conférence qu'a donnée Antonin Artaud le 7 janvier 1948 pour en finir avec le jugement de Dieu. Et dans ce nouvel ouvrage, Yannick Hennel, l'absence de Dieu, la croyance en des dieux maléfiques et ô combien matériels qu'est l'incarnation du capitalisme, mais l'absence de Dieu est prépondérante, omniprésente. C'est aussi un livre de philosophie politique de comment on va arriver à se débrouiller, à respirer tous les matins au XXIe siècle, dans cette période précise que nous traversons, qui est une période d'interrogation. On sait bien que le capitalisme est à bout de souffle, l'argent nous fait croire que c'est la valeur suprême, mais beaucoup d'entre nous n'y adhèrent plus. Mais on n'a pas trouvé de nouveau, entre guillemets, dieu de substitution. On est face au vide, un peu comme Artaud l'exprimer avec cette voix extraordinaire.
Oui, Artaud, dans sa psalmodie, dans ses éructations de prophète, enfin, de prophète de l'abîme, semble le dire. En fait, ce qu'on a dans l'existence, ce sont des trous. Et moi, en me promenant en voiture comme ça pendant des jours et des jours dans le nord de la France pour écrire ce livre, enfin pour capter des choses, enfin pour capter des énergies, qu'elles soient noires ou blanches, peu importe, que ce soit de la magie noire ou de la magie blanche, je voyais ces terrils, je voyais le reste des mines. Moi, je viens d'une famille de mineurs en Lorraine, et en me transplantant comme ça dans le nord, je pensais à ces banques et à ces souterrains et à ces coffres. Et il se trouve j'ai inventé une scène, mais qui se passe dans un lieu réel, dans la souterraine, à 30 mètres en dessous de la Banque de France à Paris, en plein milieu, à côté du Louvre, juste à côté du Louvre. Il y a une espèce de lieu qui ressemble à une cathédrale vide, où sont stockés les lingots d'or de la France, les milliers des dizaines de milliers, enfin, de lingots d'or. Et j'ai imaginé, dans les années 80, à la faveur d'une visite réelle qu'a faite Ronald Reagan avec Nancy, enfin, souvenez-vous de Nancy, enfin, qui était merveilleuse, avec toute la délégation des capitalistes qui, à l'époque, c'était vraiment le début, comme ça, du néolibéralisme triomphant. Et Reagan, qui venait d'échapper à un attentat, je le fais débarquer avec son sourire d'acteur, et elle qui sourit en robe rouge. Et il visite, à 30 mètres sous terre, avec la délégation réelle de tous les directeurs de la Banque de France, et mon petit trésorier payeur qui est là en stage à l'époque, il a 20 ans. Et on va assister à une messe noire. Parce que on sait que la finance est devenue folle, mais en fait... Et il y a un texte génial de Walter Benjamin qui résonne avec ce que vous nous avez fait écouter d'Artaud, qui s'appelle le capitalisme comme religion. En fait, le truc, c'est qu'on, Dieu est peut-être mort, mais l'argent a pris sa place. Et le capitalisme se donne comme une religion, mais je dirais même comme une secte, plutôt. Et là, c'est aussi une farce, ce livre. Enfin, j'aime bien qu'il y ait un côté un peu à la Gombrowicz, enfin. Et donc je décris tous ces gens face à une pyramide de lingots, Ronald Reagan devenant quasi hystérique et passant les lingots d'or à Alan Greenspan, quand même le grand responsable de la crise des subprimes, enfin, qui présidait la Banque fédérale, et tous ces gens qui sont là, qui vont communier dans une espèce d'extase noire. Voilà, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ce à quoi vous m'invitiez, mais... Il y a dans les souterrains de l'existence actuelle, et on s'en rend pas compte, évidemment, on vit nos vies, il y a un maléfice qui a lieu, Artaud a raison, il y a un envoûtement, et on peut penser parfois que le capitalisme relève de ça, de cette chose absolument pas rigoureuse, complètement cinglée en fait, mais qui nous a tous eus. C'est pour ça que du coup j'ai raconté par intuition des messes noires, ouais, dans les souterrains du monde.
Je vous propose d'écouter la voix de l'abbé Pierre qui va donner sa définition du riche. C'est une archive INA de 1984.
Quiconque est assuré de son emploi est déjà un riche. Les fonctionnaires, mon Dieu, quand donc comprendront-ils qu'ils sont follement privilégiés du fait de la garantie de l'emploi ? Quiconque est riche, c'est-à-dire non pas milliardaire, mais sûr de son emploi, a le devoir de dépenser. Il faut dire à ces gens-là, votre devoir, c'est d'acheter de la production française. Donnez votre vieille télévision, donnez votre ancien magnétoscope, donnez votre moto, la moto de vos enfants, achetez le dernier cri. C'est votre devoir pour qu'il y ait du travail. Si des organismes comme Emmaüs, nous irons vous prendre ces choses et nous les revendrons à petit prix, pour que ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont dans l'impossibilité de l'acquérir le puissent. Les riches ont le devoir de dépenser. Et est riche désormais quiconque a la certitude de son emploi.
À chaque période, c'est riche, Yannick Hennel.
Ben Rimbaud disait « Je suis mille fois le plus riche ». Et on sait bien qu'il n'avait pas un sou en poche. Ben la richesse, enfin... Moi, je pense que c'est celle de Saint François d'Assise, en fait. Elle est dans le... Elle est dans l'amour le plus fou pour le don lui-même, voilà. La question de la dépense qui, au départ, m'avait guidé dans ce livre que j'avais emprunté à Georges Bataille, c'est pour ça que j'ai gardé le nom de Georges Bataille, ça m'a aussi amusé, enfin, se transforme peu à peu en méditation sur le don, sur ce qu'on donne. Le riche, le plus riche, c'est pas celui qui possède, mais celui qui donne. Enfin, c'est l'Évangile qui dit ça. Enfin, je pense que mon trésorier payeur a un côté comme ça. Même s'il ne veut pas entrer dans l'Église, il veut pas se laisser manipuler par le curé de la paroisse. Il a quand même un côté chrétien. Et la femme dont il tombe amoureux, cette dentiste merveilleuse, Lilia Misaki, elle prie. Elle est catholique. Elle vit dans un mystère. C'est très mystérieux de voir quelqu'un prier, en fait. Et moi-même, parfois, il me semble, je ne sais pas prier, mais il me semble qu'écrire, à certains moments, comme ça, de concentration, d'état d'écriture, comme dit Duras, ça a à voir avec une prière ou une contre-prière, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on accède à quelque chose de plus grand que nous, voilà. La question du riche et du pauvre, c'est la grande histoire occidentale pour moi. Et effectivement, ces polarités, ça m'a plu. Enfin, j'aime bien, comme Bataille lui-même le disait souvent, de changer les noms, enfin brouiller les pistes. Où est le riche, où est le pauvre? Si on en croit encore les franciscains, les plus riches sont ceux qui n'ont rien. Ce fameux rien dont vous parliez tout à l'heure, enfin, dans lequel ce trésorier payeur, ce banquier qui se fout complètement de l'argent, va chercher la quintessence, voilà. Peut-être que c'est pas l'argent qui compte, c'est la pierre philosophale, et on a beau savoir qu'elle n'existe pas, puisqu'elle n'est que la transformation de la boue en or, eh ben elle mène tous nos désirs, en fait. La seule chose, la grande chose, c'est le désir.
Vous êtes un artiste du langage. Dans ce livre, vous nous mettez en abîme la manière dont notre langue commune est hantée par les stigmates du néolibéralisme. Oui. Le langage lui-même est infesté, infecté. Il faut rassurer les marchés financiers, il faut faire attention au CAC 40, il faut avoir peur de la décroissance. Autant de mots, de télégrammes, de textos, de emails, d'injonctions à la radio, à la télévision que nous entendons chaque jour. Et j'ai interprété votre livre aussi comme une sorte de désir de s'éloigner de cette langue commune que nous utilisons tous, mais qui, petit à petit, à bas bruit, cette langue économique a peut-être pris le pas sur la langue commune.
Je le crois parce que c'est parfois épouvantable quand on se rend compte qu'on est infecté soi-même par des mots très laids. Je veux dire pas des mots crus. Moi j'aime bien les mots crus aussi. Mais voilà, je crois que la littérature c'est pas un camp retranché dans lequel on se battrait pour que la langue reste pure. Ça je m'en fous complètement. Mais en revanche la je vais utiliser ce mot, même s'il est ambigu, là, une certaine noblesse, au fond, de l'esprit. Une noblesse du cœur, en fait. Eh bien, cette noblesse du cœur, cette volonté de ne pas laisser de ne pas se laisser soi-même avilir par tout ce qui arrive, eh bien, elle va avec un certain usage du langage. Une manière de prendre soin des phrases, de prendre soin de l'effervescence de la poésie en chacun de nous, et aussi de sauvegarder ce qu'il y a de plus fantasque, de plus fantaisiste. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus dans la vie, enfin, c'est cette fantaisie que j'ai essayé de mettre dans ce livre, enfin, qui dérape, enfin, qui sort des rails, qui va vers la féerie sans cesse. Pour moi, la plus grande chose, c'est la gratuité. Je pense que la chose la plus, celle qui ne cesse de nous assaillir à chaque instant, c'est pas tellement l'argent, l'argent c'est abstrait, c'est le fait que tout doit être calculé. Et au contraire du calcul, au contraire de cette manière très pauvre qu'on a d'économiser les choses, il y a la gratuité. Voilà, la gratuité c'est plus fou que l'argent. C'est une chose, je sais pas, j'imagine, je vais citer pour la troisième fois Saint François d'Assise, mais je pense que dès le XIIe siècle, il savait ça. Dans la gratuité, il y a, Il y a quelque chose de somptuaire, enfin, et il y a le chemin qui nous mène vers les jeux les plus dangereux dont parlait Bataille tout à l'heure. Il y a la poésie elle-même. Voilà.
Comment définiriez-vous la poésie? À un moment, votre héros, le trésorier payeur, essaye d'atteindre le silence intérieur du langage. Ce sont vos propres termes, Yannick Hennel. Est-ce cela votre définition de la poésie?
Oui, je pense que la poésie, c'est quelque chose qui se murmure. C'est une musique, alors qui pourrait être intérieure, et pourtant elle est partageable, elle est transmissible. Je pense souvent à quelque chose que j'adore faire, qui est un peu bizarre peut-être, qui consiste à me pencher au-dessus de l'eau, au-dessus des ruisseaux. Je fais ça souvent au-dessus même de la Seine, c'est un peu dangereux, risque de tomber, et de laisser son oreille au fil de l'eau, vous voyez, d'écouter l'eau. C'est un geste dont je me rends compte qu'il est presque mystique, enfin, qui n'a aucun sens. Mais moi, quand j'écris ou quand j'écoute quelqu'un ou que je lis, j'ai l'impression de me pencher sur un fleuve, de me pencher sur une rivière. Et la poésie, c'est ça pour moi.
Dans la poésie, il y a l'acte de nommer le bonheur. Vous avez parlé du jardin d'Éden, du cantique des cantiques. Et effectivement, le dernier tiers de votre livre se déroule dans un jardin. La poésie, n'est-ce pas aussi la capacité de pouvoir nommer les fleurs, les arbres, le vent, la beauté du monde?
Il y a cet homme qui a vécu, si je puis dire, dans la salle des coffres, qui s'est volontairement auto-séquestré alors qu'il vient de la philosophie, c'est un banquier masqué, va découvrir une abondance, voilà, une nouvelle abondance. Je sais que c'est mal vu en ce moment, on parle de sobriété sans cesse, ça m'agace, enfin. Je comprends bien de quoi il s'agit, la sobriété énergétique, mais on a l'impression qu'il y a aussi un puritanisme politique, la sobriété, faudrait plus déborder. Moi j'ai envie de déborder. La littérature, c'est le débordement, la littérature, c'est l'ivresse, au contraire. Et il découvre cette abondance qui n'a l'air de rien, en fait. C'est Nietzsche disait que la vérité s'énonce toujours à pas de colombe, enfin, ou que les grandes choses se disent à voix basse. Eh bien, cet homme va découvrir effectivement que pouvoir prononcer le mot mimosa, le mot noisetier, le mot tulipe, c'est une chose immense. Peut-être qu'à 20 ans, on s'en fout. À 35, un peu moins, je sais pas. Peut-être que ça arrive avec l'âge, enfin, peu importe d'ailleurs. Mais il va découvrir surtout qu'à travers le fait de nommer un mimosa, de nommer un noisetier, on n'a plus d'âge, en fait. On a, comme dans Proust, on est beaucoup plus vieux qu'on ne l'est, beaucoup plus jeune. On a 7 ans et 62 ans à la fois. Enfin, il y a quelque chose d'infini, voilà, d'infini. L'abondance et l'infini contre le calcul.
Merci infiniment Yannick Hennel. Votre magnifique livre s'intitule « Le trésorier payeur ». Et c'est tant mieux, il est publié dans une collection qui s'appelle « L'infini ».
C'est vrai, chez Gallimard, oui.
I don't wanna get married, don't wanna have your baby, baby. You say that I will change my mind, maybe I will down the line. This shit is getting scary, you're pressuring me like crazy, it's crazy. Don't wanna live life in rewind, having my future lay behind me. It's me or you, it's me without you. I think I'm better without you.
Honey, honey,
better without you.
Honey, honey,
better without you.
Honey, honey, please. Honey, honey,
please.
Honey, honey,
please.
Honey, honey,
please.
Honey, honey, please. Honey, honey,
please.
scars for days inside my mind. Can't find a way to work it out. Cause I don't really want us to, but I don't really want us to break. Yeah, I gon' let you go so soon, even though I know there is no future for you and me. It's you or me, it's you against me. You will be better without me. You and me, I don't think that we were meant to be. Cause you, baby, don't me. You will be better without me.
Et c'est avec Miel de November Ultra que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Théo Mention. Et bien sûr, merci à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.